Voilà, on ouvrira nos Bibles ce matin dans l'Ancien Testament. Mais pour introduire le sujet, je dirais que Dieu ne nous a pas sauvés de la condamnation éternelle, parce que nous étions effectivement coupables devant lui, mais il l'a fait aussi pour qu'il règne sur nos cœurs. Sinon, ça ne sert à rien. Sauver pour sauver. Non. Dieu a un autre plan de salut. Il veut que nous nous laissions, ou plutôt que Dieu, règne sur nous, sur nos cœurs. Dieu veut régner sur mon cœur. Est-ce que lorsque vous êtes venu à lui, vous aviez conscience de cela? C'est pas sûr, parce que moi, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, il y a très longtemps maintenant, je n'avais pas forcément cette pensée en tête. J'étais heureux d'appartenir à Jésus-Christ, à Dieu le Père, mais je n'avais pas encore, peut-être par manque d'enseignement, conscience que Dieu voulait non seulement demeurer en moi, mais régner sur moi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Il y a l'idée derrière que si c'est le cas, Dieu régnera sur le cœur qui est rempli de l'Esprit-Saint. Mais vous savez que cela ne fait pas partie de la nature humaine, de laisser quelqu'un régner sur elle. Toute l'histoire des hommes le montre, et même le démontre, et en particulier l'histoire biblique. Et par exemple, je peux prendre un tas d'exemples, mais je pensais à celui-là, au temps du prophète Samuel. Le dernier livre, le dernier verset du livre des Juges dit ceci. À un moment donné, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pourtant, beaucoup d'entre eux connaissaient Dieu, mais ils refusaient de se laisser Dieu régner sur leur vie, sur leur cœur. Et je me suis demandé si nous n'étions pas un petit peu comme eux aujourd'hui. Est-ce que nous voulons laisser le Seigneur régner sur notre vie, sur notre cœur? Ou contentons-nous seulement d'être sauvés par la grâce? Ensuite, après ce temps des juges, les Israélites également ont voulu faire comme les autres nations. Vous savez ça? Pourtant, ils avaient un roi en la personne de Dieu, à un moment donné. Et ils demandent à Samuel pour simplement faire comme les autres nations, un roi terrestre, montrant ainsi, rejetant ainsi Dieu, qui pourtant voulait régner sur eux. Mais ils l'ont rejeté. Et puis, si vous me permettez ce petit raccourci, on arrive très vite à la période de la Révolution française. Alors, 1789 à 1792, c'est vraiment le passage historique de la monarchie à la République. Monarchie gouvernée par un roi à la République, avec, comme vous le savez, en France, cette devise « liberté, égalité, fraternité ». Mais force est de constater que rien dans cette devise n'est vrai en réalité. En donnant à l'homme une totale liberté comme il le souhaitait, c'est-à-dire sans Dieu, bien sûr, il s'est enfoncé dans son péché. Et par conséquent, tout le reste de la devise qui suit devient caduque, impossible à réaliser. Alors, frères et sœurs, mes amis, j'ai pensé que effectivement la seule solution, la meilleure qui soit pour l'homme, la meilleure qui soit pour moi, la meilleure qui soit pour vous ce matin, pour votre salut éternel d'abord, mais aussi pour votre propre sanctification, pour votre propre bien, c'est que Dieu règne sur votre cœur. Parce qu'il sait pertinemment, lui, ce qui est le meilleur pour sa créature. Et le meilleur pour sa créature, c'est qu'il règne en elle. Et pour s'en convaincre, un petit peu plus, j'aimerais que nous prenions un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, si vous voulez bien, et que nous nous rapprochions de la vie d'un homme tombé dans une profonde déchéance morale. Mais vous savez, c'est notre vie, ça. Et que Dieu, par sa grâce, a restauré pour finir par régner sur lui, pour finir par régner sur son cœur. Et je vous invite à prendre le 4e chapitre, donc, et des versets 19 à la fin du chapitre, 19 à 37. Mais avant de faire la lecture, je pense que je voudrais préciser que selon la traduction que vous avez en main, il est possible que le texte ne commence pas au verset 19, mais au verset 16. Pour ceux qui ont la traduction de la Colombe ou de la Semeur, et commence à partir du verset 19 pour ceux qui, comme moi, ont la traduction second ou second révisée, ou même la Darby, qui est une version plus littérale. Voilà. Donc, soit verset 16, soit verset 19, selon la traduction que vous avez. Et un petit rappel pour nous de cette histoire. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, et il s'agit, vous l'avez deviné, du roi Nebuchadnezzar qui règne sur Babylone. Et alors, il fait un songe étrange. C'est celui d'un grand arbre absolument magnifique. C'est pour lui un deuxième songe, parce qu'il en avait déjà préalablement fait un. Et une nouvelle fois, la Bible nous rapporte que personne parmi ces magiciens et ces astrologues n'ont pu interpréter le songe du roi, excepté Daniel, dont il est dit que, eh bien, il avait en lui l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu régnait sur le cœur de Daniel, mais pas sur le cœur du roi Nebuchadnezzar. C'est à ce moment-là ce qui fait toute la différence. Alors, commençons au verset 19 ou au verset 16. Alors, le texte est un petit peu long, mais ça vaut le coup de le lire. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, c'est son nom babylonien qui lui a été donné, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit... Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Parce que, je m'arrête, au verset précédent, il est dit, « Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu en as... Tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Continuons au verset 20. Et Daniel lui parle. « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Là, j'arrête la lecture parce qu'il dit « Voici le décret du Très-Haut ». C'est ce qu'on a vu un petit peu à la formation du disciple. Il y a plusieurs manières de voir la volonté de Dieu et il y a la volonté décrétive, ce qu'il a décrété lui-même de sa propre autorité, quelque chose d'immuable. Il l'accomplit, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quelles que soient les circonstances, il l'a décrété, il l'accomplira. Verset 25, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » La volonté décrétive qui s'accomplit. Verset 32, « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ça devait être terrible. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il parlait de lui, hein ? Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il reconnaît tout ça. Il se repent devant Dieu. Sincèrement, de toute sa force, Dieu le rétablit. Vous voyez que c'est Dieu qui décide de tout. Mais puisse cette expérience n'arriver, je le souhaite, n'arrive à personne. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à ce grand roi, le plus grand de l'époque. Et cette expérience est tellement douloureuse que Daniel lui-même, en regardant au roi, craint de lui dire d'une certaine manière ce qui se cache derrière ce songe et ce qui va lui arriver. Mais pourtant, il le fait, il ne le lui cache pas. Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il le dit au roi Nebuchadnezzar tout en respectant son statut, tout en le respectant lui. Il y a beaucoup de choses, je crois, pour nous à apprendre de ce texte. Nous pouvons nous reconnaître nous-mêmes, chacun, dans le parcours de ce roi. C'est comme si, que, en lisant ce texte, le miroir devant lequel nous nous trouvons reflète cette réalité également qui est la nôtre. Le roi Nebuchadnezzar avait déjà fait plusieurs expériences avec Dieu dans sa vie. Je vous invite, si vous avez le temps, de lire les chapitres précédents. Et vous verrez que c'est le cas. C'est souvent notre cas aussi, avant de rencontrer le Seigneur et plier le genou devant lui, de faire des expériences préalables. Plus d'une fois, Dieu était intervenu. Mais malgré cela, ça n'a pas changé quoi que ce soit dans la vie de ce roi. Ça n'avait pas changé son point de vue, ça n'avait pas changé sa vie, ça n'avait pas changé son attitude. Le texte nous dit même au verset 27, là, si vous avez les yeux sur ce texte, ou au verset 24, selon la traduction que vous avez, qu'il continuait même de pécher, d'agir par orgueil. Et pourtant, même à ce moment-là, vous voyez, à ce stade, il est clair que le Dieu de tout l'univers, le Dieu qui décrète et la chose s'accomplit, veut toucher le cœur du roi et régner sur lui. Il le veut, il le désire. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui des situations similaires ? Je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Peut-être y en a-t-il une parmi vous qui n'avait pas encore franchi ce pas de la foi, de la repentance pour s'approcher du Seigneur, Sauveur et Seigneur. Pourtant, Dieu envoie des signes, comme il a envoyé des signes à ce roi Nebuchadnezzar, pour nous montrer non seulement qu'il existe, mais pour nous montrer qu'il veut faire grâce à un grand pécheur que je suis et que vous êtes également, et que ce roi Nebuchadnezzar est aussi. Mais souvent, nous n'écoutons pas. Il y a quelque temps, une sœur en Christ disait, parlait de son conjoint et me disait que son mari allait mieux dans sa santé physique, peut-être même spirituelle, mais au moins sa santé physique. Et elle me disait, ça c'est une grâce de Dieu, son conjoint inconverti. Ça, et sa femme me disait, c'est une grâce de Dieu. Oui. Mais malheureusement, le principal intéressé n'a vu que la main experte du chirurgien, mais n'avait pas vu la main de Dieu. Son conjoint l'avait vu, mais pas le principal intéressé. Un signe qui avait été lancé et qu'il avait refusé de voir. Alors, voyez le résultat sur le conseil que donne Daniel. Un conseil avisé pour le roi de renoncer à ses péchés, de renoncer à tout ce qu'il avait fait de mal et de changer de comportement. Parce que le texte nous dit, verset 27, qu'il abusait de son pouvoir, il était injuste avec ses sujets. Et le roi plein d'orgueil, alors, n'écoute pas. Il se rebiffe et refuse de s'humilier. Et donc cette histoire est là pour nous-mêmes, pour nous servir d'exemple. Le désir de Dieu pour lui, comme pour nous aujourd'hui, reste identique. Et toute la Bible m'en parle de cette façon. C'est qu'il soit dans ma vie personnelle à la seule place qui lui revient. C'est qu'il soit dans votre vie personnelle à la seule place qui lui revient. C'est-à-dire le trône de mon cœur pour qu'il puisse régner sur moi. Et j'aimerais qu'on lise ce passage. Gardez le doigt sur Daniel et prenez avec moi Romains chapitre 5. L'épître aux Romains chapitre 5. Et je dirais le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? En fait, si Dieu règne dans le cœur d'un enfant de Dieu, alors cet enfant de Dieu règne avec Jésus-Christ. Ça va dans les deux sens, mais c'est parce que Dieu règne dans le cœur qu'il en est ainsi. Et c'est ce que Dieu veut, régner sur les cœurs. Et donc, avant de regarder plus en avant ce passage qui se trouve dans Daniel, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Là, on est au chapitre 4. Et moi, je tourne la page au tout début du chapitre. Au tout début du chapitre, j'ai pensé que ce serait intéressant de connaître la situation de ce roi Nebuchadnezzar avant, un petit peu avant. Dans quelle situation il se trouvait ? Alors, c'est le verset 4 du chapitre 4, mais peut-être le verset 1er de votre traduction. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » Tranquille. Heureux. Mais condamné par tous ses péchés. Et Dieu, à travers Daniel, veut le lui montrer. Il est totalement aveugle à ce stade. Il est tellement orgueilleux que la plus grosse des difficultés qui pourraient lui arriver ne lui aurait pas fait fléchir le genou devant Dieu. Et puis, comme il avait tout, il vivait tranquille, heureux. c'est un bonheur éphémère. Vous savez, le bonheur des hommes, ici-bas, c'est un bonheur éphémère. Beaucoup de gens disent « je suis heureux ». Hein, vous avez déjà, on vous a déjà partagé ça. Mais le sont-ils vraiment à l'approche de la mort? Non. Ah, les guerres étaient terminées pour le roi. Le royaume était en paix. Et donc il était tranquille dans sa demeure. Le roi donc pouvait être fier de toutes ses victoires, de toutes ses réussites personnelles. Et oui, parce que le livre de Daniel ne nous raconte pas tout, bien sûr, les affaires pour lui marchaient merveilleusement bien. Et je me suis dit que j'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi il est dit au verset 4 qu'il vivait tranquille dans sa maison et heureux dans son palais? Alors, je me suis procuré un livre assez gros, de quasiment 1000 pages, qui s'appelle « La Mésopotamie », donc aux éditions Belin, et qui raconte que, oui, la cité de Babylone ne cessait de grandir et de s'embellir pendant le règne de Nebuchadnezzar. Et que ce roi en était fier, bien sûr. On parle des jardins, de ces fameux jardins suspendus, vous savez, de Babylone. Vous avez déjà vu des photos qui donnent un exemple, en fait, de réussite et de beauté et qui faisaient la fierté de la cité. Et il y avait plusieurs pages concernant ce roi qui est expliqué. Qu'à la fin de son règne, parce que là on était quasiment à la fin de son règne, hein, au chapitre 4, eh bien, ayant terminé tout cela, toutes ces constructions, il méritait pour lui un bon repos. C'était la retraite. Et quand on est à la retraite, souvent les gens disent on est heureux. C'est pas vrai. Parce que quand on y pense, après, l'approche de la mort arrive très vite. Et là, on change d'avis. Là, on commence à prendre peur. Et bien sûr, il ne pensait ce roi qu'à ses capacités personnelles, à son intelligence qui l'avait conduit jusque-là à montrer combien c'était un grand roi. Et tout ça s'est expliqué de manière claire dans ce livre profane, mais tellement vrai. Il avait réussi dans tous les domaines, sur le plan militaire, sur le plan économique, mais pas sur le plan relationnel. Parce que le texte nous dit et nous affirme que c'était un grand pécheur. Il avait profité de son statut de roi pour dominer sur tout le monde et imposer un autoritarisme insupportable. Et vous savez que c'est le péché d'orgueil est très souvent le péché que Dieu a en horreur. Et la Bible nous en parle d'une manière claire. Vous savez, c'est pour faire court, hein, c'est ce sentiment élevé de sa propre personne. Alors, on ne va pas forcément l'avouer, mais ça peut se voir dans les comportements des gens. Pas seulement dans les paroles qu'ils prononcent. Et vous savez, ce péché d'orgueil nous guettent tous d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, pour y couper court, d'ailleurs, Paul répond à ceux à qui il s'adresse. Il leur dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu » C'est-à-dire, comme si tout venait de toi. Là, l'apôtre Paul veut convaincre ses auditeurs de penser correctement, justement, et de se dire que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de la main de Dieu. Tout ce que je suis même devenu, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, qui me donne le souffle de la vie tous les jours qui passent, et à vous aussi. Je l'ai reçu de Dieu. Pourquoi m'en glorifier ? C'est le fait d'avoir de soi-même une trop haute opinion. Car Daniel aurait pu lui dire, mais d'où vient tes capacités ? D'où vient ton intelligence, roi Nebuchadnezzar ? D'où vient ta réussite ? Et peut-être nous pouvons nous poser la question, mais j'ai réussi à mon examen. Je suis content. Ah, j'ai travaillé pour ça. Oui, tu as travaillé. C'est bien. Il faut continuer à le faire. Mais qui vas-tu glorifier ? Toi-même, par tes capacités, par ton travail, ou parce que tu t'es confié en Dieu et Dieu a fait grâce à ce moment-là et t'a permis de réussir, d'aller jusqu'au bout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est beau ce verset. Et donc, j'aimerais relever deux choses que cette histoire nous rapporte. La première des choses, c'est qu'elle veut nous lancer un appel à la repentance. Le péché du roi est de vivre dans une totale ou indépendance vis-à-vis du Dieu qui règne sur tout l'univers. Eh oui. Et ce songe qu'il a reçu est là pour l'avertir. Alors, il y a plein de choses dans notre vie, n'est-ce pas, où Dieu utilise des choses dans notre vie pour nous avertir. Est-ce que nous écoutons ? Est-ce que nous voyons ces signes ? Ou est-ce que nous les mettons de côté, nous refusons de les voir ? Il l'avertit, et ça résonne dans les oreilles de ce roi comme un avertissement solennel de la part de Dieu, mais c'est aussi un avertissement pour nous tous. Tu crois que tu as réussi par toi-même ? Alors, ce que tu es, tu l'es par toi-même ? Alors, je t'avertis. Attention, du jour au lendemain, tout te sera ôté. Et alors, tu verras que tes capacités, ton intelligence, ta force, soi-disant, ne t'auront servi à rien. Si tout est ôté du jour au lendemain. C'est ce que pensait l'homme riche dans le Nouveau Testament. Il avait amassé, et se disait tranquille. Je suis tranquille. Sa vie lui a été ôtée dès le lendemain. Dieu veut régner sur mon cœur. Il veut que je le sache. Il veut que le roi Nebuchadnezzar le sache également. Alors il lui dit, repens-toi et arrête de vivre pour toi. Arrête de fermer les yeux sur ce que je te montre, sur les dons que Dieu t'a fait, la grâce qu'il t'a accordée d'être ce roi que tu es. Arrête de rejeter son appel à venir à Christ. Si peut-être l'un d'entre nous ce matin n'a pas encore fait ce pas de la foi pour venir à Jésus-Christ, arrête de résister par orgueil. Si le Seigneur t'appelle à venir à lui. Et j'aime bien ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, qui, on peut le lire si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, qui nous dit, c'est Paul qui parle, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, enfants de Dieu de l'église de Thessalonique, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et ce verset nous décrit trois aspects authentiques de repentance. La soumission à Dieu, quand il appelle. L'abandon du mal, deuxièmement. Et le désir de servir Dieu et de servir les autres, troisièmement. Ça, c'est voilà, la manifestation d'une repentance authentique devant l'Éternel Dieu. Est-ce que c'est mon cas ce matin? Est-ce que c'est votre cas ce matin? Prenez-vous les choses de Dieu au sérieux. C'est ainsi que Dieu veut régner sur nos cœurs. Oui, le péché de Nebuchadnezzar est de dire sans cesse « Je veux et je peux me débrouiller tout seul dans la vie. Je n'ai pas besoin de mes frères et sœurs. C'est pour ça que je ne fais pas partie d'aucune église locale. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin des autres. Parce que je vis ma foi. Orgueil. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dieu veut régner sur notre cœur et nous faire comprendre que lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu par sa grâce, eh bien Dieu veut que nous vivions notre foi avec les autres enfants de Dieu et que nous partagions ensemble cette même foi pour le servir et servir les autres. Pourtant, il y a des exemples dans la vie qui nous montrent le chemin et que Dieu a voulu. Prenez la cellule familiale, par exemple. C'est un don de Dieu. Les enfants savent très bien qu'ils dépendent des plus grands, et en particulier de leurs parents. Ils ont besoin d'eux dans la vie, les enfants. Pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cela. Ils l'apprennent par eux-mêmes. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La repentance consiste donc à avouer à quel point j'ai besoin de Dieu par rapport à ce que je suis, un pécheur condamné qui a besoin d'être gracié, qui a besoin d'être vivifié par quelque chose de nouveau, pour que Dieu puisse régner désormais sur mon cœur comme il le veut. Et que je puisse avoir une relation de dépendance, lui et moi, et reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, me vient de Dieu. Cette histoire est aussi un appel à l'humilité. C'est un appel à la repentance, mais c'est aussi un appel à l'humilité. Dieu a cherché dans Nebuchadnezzar non seulement sa repentance, c'est Dieu qui conduit les gens à la repentance. Le Nouveau Testament nous l'apprend. Je ne sais pas comment il fait, comment il se débrouille, mais à un moment donné, lorsqu'il appelle, alors ça va produire à un moment donné dans notre vie une authentique repentance. Je n'ai pas de mon côté, moi humain, tout petit, à chercher comment Dieu se débrouille pour cela. Mais ce qu'il a décrété, il l'accomplit. Il avait décrété sauver ce roi. Et ça a pris le temps qu'il a fallu. Les choses pour ce roi ont été douloureuses et je souhaite à personne de vivre cela. Mais c'était la volonté de Dieu s'est accomplie pour cette personne. L'orgueil, comme je le disais, est le péché dont Dieu a le plus horreur, probablement parce que c'est le premier de tous les péchés. C'est Satan qui a été chassé du ciel à cause de sa rébellion contre Dieu. Adam et Ève ont aussi péché par orgueil lorsqu'ils ont pris le fruit défendu. Satan leur avait dit, mais vous serez comme des dieux. Et alors par orgueil, ah oui. Et ils ont péché. Proverbe chapitre 8, verset 13, je vous le lis. L'arrogance et l'orgueil, voilà ce que je hais. C'est Dieu qui parle. Proverbe 21, verset 4. Un cœur qui s'enfle, ce n'est que péché. Vous savez, il y a plusieurs manières de s'enfler d'orgueil. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais pensons-y. Et il y a bien d'autres versets qui expriment la répulsion de Dieu à l'égard de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la parole, mais il fait grâce aux humbles. Alors, pour aller plus loin, 12 mois s'écoulent. Alors vous êtes avec moi dans le chapitre 4, vous avez vu que 12 mois s'écoulent. Verset 29. Ou 26, selon la traduction. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Alors toujours tranquille et heureux. Hein. Fier de lui. C'est ça que ça veut dire. Hein. L'orgueil. Pourquoi 12 mois ? Ah, mais c'était le temps que Dieu a voulu laisser à Nebuchadnezzar pour réfléchir. Il aurait pu lui laisser moins, mais il lui a laissé suffisamment de temps pour réfléchir, pour se repentir, pour s'humilier. Il fait la même chose avec nous, frères et sœurs. Lorsqu'il nous montre du doigt qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et alors, qu'est-ce que fait le roi ? Il se repent, il s'humilie ? Pas du tout, mais pas du tout. Il continue à vivre comme avant. Il a décidé que finalement, il n'y a pour lui aucune raison de changer. C'est parfois la décision que nous prenons. Lorsque la parole de Dieu nous parle, nous reprend, eh bien nous disons, non, je ne veux pas entendre. Je veux bien faire peut-être d'autres, mais pas ça, Seigneur. Non, je ne veux pas entendre. Péché d'orgueil. Parce que je ne me soumets pas à la parole. Pourtant, Dieu veut régner dans mon cœur et je le refuse. Il a réfléchi et il a décidé. Et il le confirme en faisant quelque chose qui va précipiter sa chute. Regardez avec moi au verset 30, alors on le reprend parce que c'est important. Le roi prit la parole, dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? À peine avait-il terminé de dire cela que la sentence de Dieu s'abat sur lui d'une manière brutale. Autrement dit, il dit, ah, je suis le meilleur. Vous avez déjà entendu ça outre-Atlantique, là, en ce moment ? Je suis le meilleur, hein. Et pourtant, il est président d'un pays important. C'est grâce à moi tout ça. Et alors, sans tarder, le verset 31 nous dit que tout va lui être enlevé. D'un coup, comme ça. Mais vous savez, nous sommes tous humains. Et du jour au lendemain, je peux me faire renverser par une voiture. Je peux contracter une maladie incurable. Brutal et mourir très vite. Il peut m'arriver un tas de choses dans la vie. Mais ça, l'humain n'y pense que très peu. Parce qu'il pense que tout va bien. Et qu'il ne faut pas que sa vie change. Alors que Dieu lui montre le contraire. Et il le refuse. Par orgueil. Son jugement, le jugement de Dieu est tombé. D'ailleurs, il semble bien que dans l'exécution de la sentence de Dieu, le roi ait été pris d'une telle folie que à deux reprises, il a dû dire « La raison me revint !» La raison me revenit. Il a même été dans cette chute effroyable, physique, morale. Il a dû dire à un moment donné, quand ça commençait à revenir, voilà, la raison me revint. C'était une telle folie qu'il ne pouvait même pas, nous dit le texte, rester avec les hommes. Des fois, c'est ça, on s'enferme chez soi, on s'isole, on n'est plus, on a de moins en moins de relations avec les frères et sœurs. On se suffit de ce que l'on a. Et il a été contraint, ce roi, à vivre comme un animal. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a fait cela pour Nebuchadnezzar, pour l'amener à la repentance, à la foi et à l'humilité. Et il y est parvenu, parce qu'il l'avait décrété. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui se trouve dans la même situation, que vous soyez chrétien d'ailleurs ou pas, parce que on peut être enfant de Dieu et s'être détourné de la parole de Dieu. J'espère pour un temps, Dieu veut toujours que son enfant revienne à la parole. Parce que Dieu résiste toujours aux orgueilleux et parfois, ça peut faire très très mal. Cependant, Dieu fait toujours grâce aux humbles. Et c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Il a retrouvé la raison. Est-ce que vous avez vu que lorsque Daniel a révélé au roi l'explication de son songe, il lui a dit qu'il allait tout perdre, mais il lui a dit aussi quelque chose. Il lui a dit qu'il allait être rétabli. Vous avez remarqué ? Conduit par l'Esprit de Dieu, Daniel lui a dit qu'il allait tout perdre, mais qu'à un moment, on ne sait pas à quelle distance, il allait être rétabli. C'est ce que Dieu veut faire avec nous parce qu'il nous aime. Si nous chutons, si nous désobéissons, il veut nous montrer les choses et il veut nous rétablir dans sa communion avec lui. Pour régner sur mon cœur, pour régner sur votre cœur. Alors, Nebuchadnezzar, autant marqué, verset 34, autant marqué, c'est-à-dire, c'est Dieu qui le décrète. Ou verset 31, selon votre traduction que vous avez. Eh bien, Nebuchadnezzar, l'homme au cœur de pierre. C'est peut-être vous ce matin, au fait. Il se repent. Il s'humilie. Les deux appels que nous montre ce texte. Appel à la repentance, appel à l'humilité. Alors il lève les yeux vers le ciel, nous dit le passage. Et avoue son péché, reconnaît qu'il s'est totalement trompé. Et quasiment instantanément, il reçoit la guérison. Oh, qu'as-tu que tu n'aies reçu, sinon de Dieu ? Sa confession des versets 31 à 30, 34 à 37, ou peut-être 31 à 34, selon ce que vous avez entre les mains, est une belle, magnifique confession. Elle mériterait d'être étudiée en études bibliques. Il confesse dans l'humilité que Dieu vit éternellement, qu'il est le Dieu très haut, qui règne, que rien ni personne ne peut s'opposer à ses décisions. Il le dit, ce roi, et qu'il est celui qui élève et qui abaisse, comme il le veut. Ça peut vous arriver du jour au lendemain. Et dès cet instant, Dieu a accompli en Nebuchadnezzar ce qu'il voulait faire de lui et ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Régner sur notre cœur, c'est-à-dire faire de nous des serviteurs, des servantes dans l'Église, pour servir dans l'Église, à la gloire de Dieu et par Jésus-Christ. On ne sert pas de son propre chef, on sert par Jésus-Christ. Le roi, finalement, a compris la leçon. Il a vraiment compris la leçon. Elle a été douloureuse, mais il a fini par la comprendre et est devenu un homme repentant, soumis et humble, obéissant. Et il loue Dieu devant toute la terre. Tout le monde est au courant de la louange de ce roi envers Dieu. Alors que peu de temps avant, il l'avait totalement rejeté. Quel changement dans le cœur de cet homme. Il était hier un impie. Il est aujourd'hui un adorateur. Alors, lequel des deux êtes-vous ce matin ? Un vrai adorateur qui adore Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, et qui se soumet à lui désormais pour lui obéir totalement. Est-ce que vous êtes celui qui fait encore la sourde oreille à l'appel de Dieu à venir à lui ? Dans la repentance, dans l'humilité ? Ou est-ce que vous êtes celui qui a compris, comme ce roi ? Ah, ça a pris du temps, peut-être. Le temps de Dieu, on ne le connaît pas. Peut-être il vous laisse le temps. Peut-être pas 12 mois, hein. Peut-être moins. Pour que vous compreniez et que vous puissiez vous humilier devant lui et revenir à lui. Celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice règnera dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5, verset 17. Et donc, que l'Esprit du Seigneur aide chacun ce matin à comprendre et à recevoir sa parole. Amen.